L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5500 francs par jour seulement.
Bonjour Jean-François Bodin.
Bonjour Nicolas.
Et vous recevez ce matin le président de la CAFAT.
Oui, Patrick Dupont, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation alors que vous arrivez au terme de votre mandat de président du conseil d'administration de la CAFAT. On rappelle que c'est une présidence tournante, assurée un an par quelqu'un issu du collège des employeurs, ce qui est votre cas, et c'est une personne issue du collège des salariés qui prendra votre succession pour un an. Un an qui a été une année qui a été particulièrement difficile. La situation de la CAFAT lorsque vous avez pris la présidence du conseil d'administration était déjà fragile. Avec le 13 mais elle s'est aggravée, on va bien sûr en parler. Mais avant cela, quel est votre regard sur ce plan S2R dont on parle beaucoup ces temps-ci, mis en place par le gouvernement? Est-ce qu'il va avoir des conséquences pour la gestion de la CAFAT?
Oui, effectivement, bien évidemment, il y aura des conséquences pour la CAFAT. Je rappelle quand même que la CAFAT, ça représente à peu près plus de 100 milliards à la fois de cotisations et de prestations. Donc, il est évident qu'un tel plan ne peut pas se faire sans que cela ait un impact pour la CAFAT. Et ce plan, effectivement, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, j'ai assisté à l'ensemble des séances au CCT, c'est un plan qui a été construit, sur lequel beaucoup de personnes ont travaillé, y compris donc les organisations syndicales et les organisations patronales qui sont présentes au sein du conseil d'administration de la CAFAT. Et donc, on retrouve dans le plan beaucoup d'idées qui ont été discutées, qui quelquefois ont été approuvées au niveau du conseil d'administration de la CAFAT. Et notamment, l'idée aujourd'hui de revoir la carte sanitaire, parce qu'à la fois pour des problèmes de financement et aussi, bien évidemment, pour des problèmes de manque de soignants, que ce soit des médecins, des infirmiers, etc. On demande notamment une meilleure collaboration entre le CHT et la clinique pour éviter les doublons. On demande à revoir aussi l'organisation de la carte sanitaire dans le Nord. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses, effectivement, qui concernent la CAFAT. On a demandé aussi à ce que le refinancement des dettes de RUAM soit inclus dans les clauses, dans les plans de sauvegarde, parce que ça permettra, effectivement, de résoudre ce problème et de remettre des financements dans le circuit, notamment au niveau des fournisseurs du Medipôle. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été reprises et qui, effectivement, à la fois au niveau du conseil d'administration de la CAFAT et des organisations patronales et syndicales, nous satisfont.
Un mot sur la carte sanitaire que vous avez évoquée, parce que vous dites qu'il faut que le CHT et la clinique travaillent plus, il faut revoir la carte sanitaire dans le Nord. Quelles sont les propositions ou les pistes de réflexion là-dessus? C'est-à-dire qu'il y a trop d'établissements hospitaliers aujourd'hui par rapport à la réalité de la population?
La révision de la carte sanitaire, elle est effectivement inclue dans le plan S2R. C'est pas à nous de dire s'il y a trop d'établissements, mais ce qu'on constate effectivement, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'établissements et qu'ils n'arrivent pas à fonctionner correctement aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il faut en revoir l'organisation? Est-ce qu'il faut en revoir la taille? Est-ce qu'il ne faut pas aussi mutualiser les structures? Parce qu'on a quand même trois structures hospitalières en termes juridiques. On a le CHT, on a le CHS, on a le CHN. Est-ce qu'il ne faut pas beaucoup plus de mutualisation, de manière aussi à ce que le déplacement des médecins se fasse de manière beaucoup plus simple? Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Est-ce qu'il ne faut pas non plus peut-être fermer certaines activités et prévoir aussi des transports qui soient plus efficaces entre les différentes structures? Voilà, il y a beaucoup de choses à travailler. On n'est pas, la CAFAT, on n'est pas des spécialistes de la santé, mais on pense qu'il y a effectivement des économies et une efficacité accrue avec une nouvelle organisation.
Ça, ce sont des visions un peu à long terme, Patrick Dupont. On sait qu'il y a des urgences aujourd'hui à gérer à court terme, hein, notamment le sauvetage du RUAM. Où est-ce qu'on en est sur ce point-là?
Alors, bien évidemment, enfin, le plan S2R, il est relativement simple et il est relativement efficace dans sa conception. Il y a effectivement des mesures de refondation, de reconstruction, il y a des mesures de sauvegarde. Et en attendant que ces mesures de sauvegarde et de reconstruction derrière aient leur plein effet, il va falloir assurer le financement des régimes sociaux, mais pas que des régimes sociaux, hein, des collectivités aussi, bien sûr, on le voit avec la province sud, et ce financement ne pourrait être assuré qu'à travers l'aide de l'État. Pour le RUAM, on a déjà pu percevoir de la part de l'État à travers la Nouvelle-Calédonie un 5 milliards il y a à peu près 2 mois, nous permettant de payer effectivement la dotation globale de fonctionnement sur les mois de septembre, octobre et novembre. Et on devrait recevoir un nouveau montant, peut-être l'équivalent, peut-être un peu moins, c'est en discussion, qui nous permettra effectivement de continuer à payer la dotation globale de fonctionnement au moins sur le mois de décembre.
Ce qui veut dire que vous fonctionnez avec 1 à 2 mois d'avance pour l'instant, de visibilité?
Alors, on gère à la CAFAT, on gère la trésorerie du RUAM au jour le jour. Mais ça, c'est pas nouveau. Ça fait, je dirais, ça fait 5 ans, peut-être plus, qu'on gère la trésorerie au jour le jour. Mais on la gère de telle manière à anticiper les problèmes, souvent 6 mois ou 12 mois à l'avance. Hein. On avait déjà averti, par exemple, au mois de décembre 2023, qu'il nous manquerait 12 milliards pour finir l'année en 2024. Et on avait parfaitement raison. Donc, on gère effectivement... Alors, bien sûr, c'était un peu plus parce que avec les cotisations qui ont baissé, mais on a vraiment des prévisions qui nous permettent effectivement d'anticiper les problèmes de trésorerie bien avant qu'ils n'arrivent.
Alors, le 13 mai a aggravé les choses et la situation. Vous avez reçu peu de temps après, hein, vous aviez donné des estimations de chômeurs et de personnes qui seraient en manque d'activité, donc de manque de recettes, évidemment, pour la CAFAT et des dépenses supplémentaires. Aujourd'hui, est-ce que les chiffres se sont affinés? Est-ce qu'on a un bilan un peu plus précis des conséquences des exactions sur les régimes sociaux?
Oui, on est toujours à peu près sur les mêmes niveaux, c'est-à-dire qu'on estime toujours que la baisse des cotisations sera environ de 15 milliards par rapport au budget et par rapport à l'année 2023, par rapport à ce qu'on avait prévu. En brut, en net, elle sera un peu moins parce que la mise en place des régimes chômage, notamment du régime partiel exaction, permet aussi de payer des cotisations et sur des montants relativement importants. Donc en net, on estime la baisse de cotisations toujours à environ à peu près une dizaine de milliards.
C'est beaucoup ?
C'est beaucoup parce que ça représente à peu près entre 10 et 15%, environ 10% du montant des cotisations.
Et on est à peu près sur un ratio de 20 000 chômeurs
Alors, on est en fait, il y a deux chiffres qui sont importants. C'est le nombre de chômeurs qui sont pour l'instant en chômage partiel. Effectivement, là, on a à peu près 20 000 personnes. Alors, ils sont en chômage partiel, ça veut dire que globalement, ils travaillent à 70, 50, 30%, mais ils sont effectivement au travail, ils sont salariés. Et puis, notre grande inquiétude, c'est l'augmentation du régime, ce qu'on appelle le régime de droit commun. On avait l'habitude de gérer ce régime avec environ 2 500 chômeurs. Aujourd'hui, en à peu près 6 mois, on est passé à 5 000, en incluant effectivement les 1 000 personnes qui ont été licenciées de KNS. Mmh. Donc c'est extrêmement important. Donc on finance, globalement, on a des régimes chômage qui là aussi sont financés par des subventions de l'État et de la Nouvelle-Calédonie. Donc on finance tout ça sur l'ensemble de ces subventions, mais ça va être compliqué. Et nous, ce qui nous préoccupe aussi, ce qui nous préoccupe le gouvernement et l'État, c'est la sortie de tous ces chômeurs au bout des 9 mois de dispositif. Et là, on est en train d'étudier, de voir qu'est-ce qui se passe actuellement, les chômeurs qui sortent. Où vont-ils? Est-ce qu'ils vont dans d'autres dispositifs? Est-ce qu'ils prennent des patentes? Où est-ce qu'on les retrouve? Voilà, parce qu'en fait, il faut qu'on arrive peut-être à imaginer, alors avec les financements qui vont avec, ça c'est bien le problème numéro un, mais il faut qu'on arrive à imaginer peut-être un dispositif de sortie du chômage total.
Finalement, c'est des questions que la Calédonie et la CAFAT ne s'étaient pas posées jusqu'à présent.
Il se trouve que en début d'année 2024, on avait commencé à réfléchir sur une réforme du système du chômage, mais parce qu'on avait un système de chômage qui était à l'époque bénéficiaire, un régime chômage qui était bénéficiaire. Donc on avait commencé à réfléchir dessus. Bien sûr, cette réflexion s'est arrêtée avec les destructions économiques qu'on a eues à partir du 13 mai. Mais c'est clair. En plus, on était dans un système où, généralement, quand même, la plupart des personnes qui sortaient du chômage arrivaient à retrouver un autre emploi. Parce qu'on avait beaucoup de CDD, on avait quand même même si l'économie était un peu en berne, il y avait quand même des créations d'emplois, il y avait des renouvellements d'emplois, etc.
C'est moins le cas aujourd'hui.
Aujourd'hui,
c'est plus le cas, d'ailleurs.
Quelqu'un qui est au chômage, retrouver un emploi, c'est extrêmement difficile. D'autant plus dans des régions comme VKP, où l'activité économique s'est arrêtée.
Alors, la relance de l'activité économique est évidemment une clé pour permettre que les régimes sociaux s'améliorent. Lors de ce séminaire sur le plan S2R, vous êtes intervenu pour dire qu'il y avait une autre urgence dont on ne parlait plus beaucoup aujourd'hui. Elle est importante, évidemment, pour les comptes sociaux. C'est le secteur du nickel. Il y a une grosse inquiétude de votre côté sur ce point ?
Oui, il y a une grosse inquiétude parce que j'ai rappelé effectivement les chiffres. La SLN, c'est 4,5 milliards un peu plus de cotisations. Prony, c'est un peu plus de 2,5 milliards. La NMC, c'est 1,3 milliard. Je rappelle que KNS, c'était 2,7 milliards. Donc, effectivement, si ces activités-là s'arrêtent ou se réduisent, on va avoir effectivement des trous supplémentaires. Et la reprise des activités minières, notamment celle de Prony, métallurgique et minière, celle de Prony et les activités minières sur Thio, sur Nakheti, sur Tontouta, sont un élément essentiel à la fois...
Aujourd'hui ne fonctionne pas, hein, c'est des endroits
qui aujourd'hui
où il n'y a pas de travail.
Ne fonctionnent pas, et je pense que les autres centres miniers ne fonctionnent pas forcément non plus à 100% de leur capacité. Et c'est un outil essentiel à la fois pour reprendre l'économie, c'est-à-dire pour les sociétés minières, mais aussi pour les sous-traitants, et ça va permettre de diminuer aussi le coût du chômage partiel. Donc il faut vraiment qu'on puisse arriver à la réouverture de ces mines. Le président Mapou l'a rappelé aussi par deux fois lors de ses discours au centre Tchibaou, et Gilbert Thuénon, qui est le responsable du secteur, nous a dit qu'il travaillait effectivement dessus.
Alors Patrick Dupont, cette année a été particulièrement difficile, évidemment, complexe aussi. Est-ce que vous avez l'impression et le sentiment que la CAFAT a joué son rôle et elle a pu répondre présent pour tous les défis qu'elle a eu à relever en quelques temps ?
Oui, moi, ce que j'ai trouvé vraiment remarquable, je m'en doutais, mais on en a eu la preuve, c'est qu'il y a une forte capacité de mobilisation des équipes de la CAFAT dès le 13 mai. Alors, peut-être pas dès le 13 mai, mais on va dire 4 ou 5 jours après, le temps de se réorganiser, le temps de réaliser réellement ce à quoi on était en train d'assister. Et c'est vraiment toutes les équipes de la CAFAT qui se sont mobilisées, hein, que ce soit les équipes du chômage qui ont été multipliées par 4, les équipes de recouvrement qui, depuis le mois de mai, négocient sans cesse avec les entreprises des reports de paiement, les équipes informatiques pour mettre en place les nouveaux programmes demandés par les gouvernements, et l'agence comptable, par exemple, pour pouvoir payer beaucoup plus rapidement le chômage. Notamment, on est arrivé à payer les entreprises en chômage partiel 10 jours à peu près après la demande de remboursement. Et je n'oublie pas non plus, parce qu'on a tendance souvent à les oublier, les personnels d'Austral Accueil en Australie, parce qu'ils ont eu en mai et juin à gérer l'arrêt des évasants, et notamment l'arrêt des retours. Et donc, ils ont eu à gérer beaucoup de malades
qui étaient déjà en Australie,
qui sortaient des hôpitaux, mais qui ne pouvaient pas revenir. Et donc, il a fallu, avec l'aide du consulat de France à Sydney, de l'ambassade de France, trouver des solutions. Et il y a eu aussi pas mal de solidarité de la communauté française en Australie. Et j'oublie pas aussi, bien sûr, les personnels d'accueil qui ont eu une grosse activité, qui ont toujours d'ailleurs une très très grosse activité, notamment avec l'augmentation du régime chômage de droit commun. Donc vraiment une organisation, une implication de l'ensemble des équipes de la CAFAT, hein, je m'excuse auprès de ceux que j'aurais oubliés, et à tel point que on a vu effectivement certains élus féliciter la CAFAT alors qu'ils avaient plutôt eu tendance à la dénigrer ces derniers temps.
Alors il y a un certain nombre de chantiers sur cette année qui viennent de s'écouler, qui sont plus internes, dont on ne va pas parler, mais qui ont été lancés, qui sont importants pour la CAFAT. On pense au lancement de la reconstruction du système informatique, la mise en place d'un comité d'audit sur un certain nombre de points. Il y a aussi des processus comptables qui sont revus. Puis il y a aussi un dossier qui a abouti sous votre présidence, c'est le fameux numéro d'identification pour les étudiants calédoniens qui partent étudier en métropole. Ça, c'était un point important. Ça y est, c'est réglé.
Oui, alors j'ai eu la chance d'être président alors quand ce dossier a abouti. Effectivement, c'est un dossier qui a été travaillé depuis de longues années, qui a été relancé à la suite de la visite du président Macron en 2022 et qui a pu aboutir effectivement en 2024. Maintenant, c'est fait. Les étudiants et même tous les Calédoniens qui doivent partir en métropole, parce que ça peut être aussi des personnes détachées en métropole, des fonctionnaires, etc., et qui n'ont pas de numéro de sécurité sociale, l'ont avant de partir, et ça leur permet d'avoir la carte vitale de manière très rapide. Et moi, je me souviens que quand mes filles sont parties en métropole, elles ont mis entre 18 mois et 24 mois pour avoir la carte vitale. Aujourd'hui, c'est quasiment, grâce à ce numéro d'identification, ça peut être fait en à peu près 15 jours, 3 semaines, une fois qu'on est arrivé en métropole.
Patrick Dupont, c'est vendredi que le conseil d'administration de la CAFAT se réunit pour élire le nouveau président issu, je l'ai rappelé, du collège des salariés. Vous allez rester impliqué, évidemment, dans le fonctionnement et dans du conseil d'administration de la CAFAT, aux côtés du nouveau président ?
C'est ce que je souhaite, mais ce sont des décisions du conseil d'administration, donc je ne vais pas anticiper sur les décisions du conseil d'administration.
On verra ça vendredi. Merci beaucoup, Patrick
Dupont,
d'avoir accepté notre invitation.
Merci, Jean-François.